Mais alors, voilà, parce que Picasso, Manet, toutes leurs femmes, qui sont autant de tableaux, qui sont autant de romans, et qui nourrissent le vôtre, ça, on a bien compris. Mais qu'est-ce que vient faire François-Marie Banet, par exemple, dans cette affaire ? Ou Alain Minkor ? Là, je dis leur vrai nom. Ils ont des noms autres dans le livre. Mais ce sont eux, ils sont faciles à reconnaître.
Alors, il me fallait la question de l'argent en ce monde. J'analyse le cas de deux virtuoses.
De l'argent.
Enfin, écoutez, dans un cas, vous avez quand même quelqu'un, et ça demande du génie, qui obtient 1 milliard d'euros de la part d'une vieille dame un peu spéciale. Bon.
Généreuse, en tout cas.
1 milliard d'euros. Mmh. J'ai vu des tas de gens qui croyaient que c'était 1 million d'euros. 1 milliard d'euros, votre imagination s'arrête, vous ne savez pas qu'en faire, etc. Tiens, affaire fameuse de notre époque. Roman énorme. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a L'Oréal, il y a la cagoule, il y a Mitterrand, votre beauté. Bon, c'est un cas très, très, très intéressant. Comparé à des histoires américaines comme Madoff ou autres qui sont sinistres, je trouve qu'il y a là quelque chose de flamboyant,
oui.
de tout à fait romanesque en diable.
Romanesque en diable, parce que dans l'affaire L'Oréal, effectivement, il y a l'extrême droite française, il y a des tas de choses. On a l'impression qu'il y a l'histoire du siècle en une seule histoire.
Mais c'est ça. Et donc l'argent circule, Mitterrand est là, en position...
Toujours dans les bons coups.
Voilà. Quant à celui que j'appelle Nathan Milstein, en hommage d'ailleurs à un très grand violoniste, ce sont des Mozart de la finance, des violonistes de la finance, des musiciens de la finance. Il y faut, là aussi, des qualités tout à fait extraordinaires. Il ne faut pas croire que l'argent circule comme ça, tout seul. Oui, il le fait tout seul, mais il a besoin quand même d'aiguilleurs et de gens qui sont sur le pont pour voir. Bon. Donc, c'est aussi extraordinaire, dans la mesure ou quoi. Bagnier, Baumier, je l'appelle, on le reconnaît, a fait à Marrakech des photos extraordinaires. Parmi ces bonnes photos, il n'y en a pas tellement, de Samuel Beckett. Beckett est flanqué sur la plage. Vous entrez dans le bureau de Alain Minkor, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça, à Paris, vous avez... des grandes photos de Richard Avedon, mais de 3 mètres, enfin, de Samuel Beckett. Vous voyez, le lien ne vous apparaît pas tout de suite.
Ah, pas du tout, même.
Eh bien,
il
si.
M'apparaît, mais pas du tout. Chaque fois que j'entends Alain Minkor à la télé, vous voyez, son rapport avec Samuel Beckett m'échappe, mais totalement.
Et oui, mais alors, lisez mon roman, vous verrez pourquoi il était fatal que d'une certaine façon, comme il est assez petit de taille, il se fasse entourer au milieu d'un flot de milliards qui passe sous ses yeux, sous des grandes, grandes photos de Samuel Beckett. Et c'est pas ça, c'est qu'au fond, ce dont il rêve, l'un comme l'autre, ces personnages avec énormément d'argent, c'est d'art, c'est de littérature pour moi, qui me raconte, je le dis, c'est vrai, il me l'a dit un jour, qu'il passait ses étés à relire La Recherche du Temps Perdu et les Mémoires d'autres temps. Vous savez,
chaque été.
Oui, vous voyez, c'est quand même.
C'est gros.
Assez gros. Hein,
deux gros livres.
Il ne faut pas dormir pendant un certain temps, pendant l'été. et de l'autre côté, pour ce qui est de l'autre, c'est-à-dire les peinturlures, etc., l'envie d'art. Cette envie d'art me paraît une question quasiment métaphysique. C'est-à-dire que les êtres humains, c'est comme l'amour chez les gens, c'est un désir de poésie, d'art, enfin, quelque chose qui sort un peu de ces journées terrifiantes. C'est plus métro, boulot, dodo, c'est fricot, 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 l'euro. Enfin, c'est ça, le mot. Il y a une envie chez l'être humain, noble, d'art. Ou alors, c'est le criminel qui se charge d'aller jusqu'au bout de la négation qu'on fait de lui.
Non, mais c'est vrai que ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que la plus-value symbolique, et puis peut-être la reconnaissance sociale, chez ces gens, disons Alain Minkor ou François-Marie Bagnier, qui sont littéralement blindés, comme on dit vulgairement, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut l'art en plus.
Il y a mon camarade Lacan qui essayait de s'y retrouver dans tout ça, quand même, qui a eu un concept. Un jour, il était tout content. Il est arrivé à son séminaire absolument ravi. Il avait trouvé un concept. C'est le plus de jouir. Ah, le plus de jouir, c'est quoi ça? Comme la plus-value. Hein, le plus de jouir, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, peut-être que c'est ça qui manque, en fait. Voilà. Alors, vous avez, par exemple, faites-vous projeter des images de soldes. En Amérique ou en France, là c'est
joué. Ah oui, là, bah oui, là.
Vous verrez la foi, enfin, l'animalité. anal, puisque ça, il faut les prix, tout ça, voilà, l'argent. Marx, là, on aurait beaucoup de choses à dire, mais il a commencé, c'est-à-dire le plus de jouir, c'est quoi, c'est, pourquoi est-ce que je me mets avec des tas de gens que je connais pas, avec une foule qui se précipite sur les objets à acheter, parce que je jouis pas. Je suis malheureux à la maison, je fais les soldes.
Oui. Mais alors pourquoi, Philippe Solers ? Parce que ça aussi, c'est un thème du livre. C'est le côté, pourquoi le bonheur est-il autant détesté ? Pourquoi l'amour n'intéresse-t-il pas plus de monde ? Pourquoi le pessimisme est considéré comme la valeur suprême ? Pourquoi faut-il être destroy, comme vous dites ? Il y a des pages drôles du livre où vous dites, voilà, maintenant, pour être un écrivain bien vu, il faut écrire le côté destroy. Il faut dire comment on se shoot, comment on se calme, etc., etc.
Comment un personnage a violé sa fille pendant des mois en Autriche, enfin, comme
et
vous voulez.
Vous considérez ça non pas comme transgressif, pas du tout, mais comme sinistre au contraire. Vous jugez ça sinistre.
L'époque est à double face. D'un côté, vous avez cette sinistre aventure qui veut que le malheur. Donc, comme disait Van Hegem à l'époque, oui, c'est ça. Le parti de la mort a un grand respect pour le malheur.
Et c'est le malheur qui est conventionnel, c'est ça que vous dites.
Oui, bien sûr. Le parti de la mort a un grand respect pour le malheur. Méditez cette formule. Hein, traiter de savoir-vivre. Voilà. Bon.
Traiter de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations.
Voilà. Alors, oui, enfin, les pauvres. Et alors, bon.
On va en parler.
Et alors, non. Vous avez d'un côté, là, cette marche au malheur qui est prisée, qui paraît authentique. Enfin, le malheur est plus authentique. Le bonheur, oui.
C'est ça. Donc, pour être pris au sérieux, il faut être malheureux.
Oui, évidemment. C'est la profondeur. Le malheur, c'est la profondeur. Enfin, vous n'allez pas me dire que Fragonard, Watteau, tout ça, c'est sérieux.
Mozart.
Oh là là, pauvre Mozart. Non, ça suffit. Alors, arrêtez. Oui. Così fan tutte, on trouve. Non. Sauf si on peut trouver quelque chose qui serait déjà l'annonce du 19e siècle. C'est le 19e siècle à travers les âges, comme a dit un auteur très peu connu, pas assez connu sur ce plan. C'est Philippe Muret. C'est moi qui ai publié son livre. Bon, le 19e siècle à travers les âges. Voilà. Ça, c'est la face. Vous tournez et vous avez, au contraire, une publicité intensive pour le faux bonheur, les fausses relations, les faux mariages, les faux divorces, les people qui se... Enfin, les couvertures de Paris Match, si vous voulez, en accéléré.
Bon, alors, voilà. C'est quoi, ça ? C'est une industrie ? C'est une industrie du malheur.
C'est une industrie du faux bonheur. Parce que vous avez ça, on vous vend ça à longueur de temps. Vous prenez les journaux féminins, c'est voilà, l'amour, bien sûr, mais comment donc, bien sûr. Et sur fond de malheur. Alors j'appelle ça du faux bonheur, enfin, c'est l'ersatz, si vous voulez, le kitsch généralisé, le mauvais goût, n'en parlons pas, enfin évidemment, tout ça, sans arrêt, voilà. Donc les deux. Et si vous arrivez à faire un cocktail des deux, voilà, ça sera bien reçu.
Alors, vous commenciez à parler des jeunes générations. Alors, je voulais quand même vous poser la question, quel plaisir prenez-vous, Philippe Solers, à jouer ou à être réactionnaire ? Parce que là, il y a des phrases dans le livre. Alors lui, par exemple, il est dans le coup. Parce que vous dites que si on est né après 1968, je suis né en 67, donc merci beaucoup, vous me sauvez, à un an près, mais on est foutu, niqué, pour reprendre l'expression que vous venez d'employer. Et vous avez l'air de dire un garçon qui a 30 ans, une fille qui a 30 ans n'arrive même pas à terminer une phrase. C'est écrit dans le livre, hein, j'invente pas. Qu'est-ce qui vous prend ? Parce que vous n'êtes pas spécialiste. Vous n'êtes pas tellement spécialisé à jouer les vieux cons d'habitude. Alors pourquoi cette poussée
Je ne suis pas sûr que ce soit un point de vue de vieux con.
Ah ben alors expliquez-le-moi.
Parce que Lévi-Strauss n'est pas un vieux con quand il faisait de l'ethnologie, et moi je fais de l'ethnologie.
Alors quelles sont vos constatations d'ethnologue
ou de médecin.
Si vous voulez.
Je suis dans l'édition, je reçois énormément de manuscrits, je vois beaucoup de gens à qui je conseille en général d'aller faire une psychanalyse, mais...
plutôt que de vous envoyer leurs livres.
Écoutez, si c'est pas être vieux con que de constater une maladie tout à fait spécifique, je ne préconise rien pour la guérir. Hein, je ne pense pas en ensemble. Je vois des individus, moi, des êtres singuliers, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Et je les écoute, je ne fais pas payer, hein, comme quoi je suis pas la psychanalyse gratuite, et je constate des choses mais extrêmement importante, je vous assure. Je travaille dans l'édition, je sais de quoi je parle, c'est-à-dire exclusion de l'histoire. Ces gens-là croient qu'ils viennent d'arriver, ils croient qu'il n'y a pas d'histoire. C'est très grave, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous croyez le bienvenu, en quelque sorte, que tout a été fait pour vous.
C'est rarement le cas.
Ensuite, il y a en effet des problèmes de déperdition du vocabulaire. C'est très important, comme si le système, c'est du système que je parle à travers ces portraits, comme si le système avait intérêt, il a tout intérêt, à ce que la lecture soit la moins précise possible, à ce que la mémoire soit la plus petite possible, à ce que la communication envahissent absolument l'atmosphère. Avec la communication, c'est très court. Hein. Il s'agit de formater des choses qui ne sont plus des phrases. Donc, je communique. Vous communiquez, je communique, nous communiquons. Bon, et alors de là où passe la pensée, voilà, c'est un problème réel. Que ça soit un blabla utilisé par ce que vous appelez l'être réactionnaire, jamais je ne le dis, c'était mieux avant. Je me félicite de cette époque qui permet au contraire des éclaircies sans précédent. Car c'est sur ce fond-là qu'il faut savoir exiger de son système nerveux propre quelque chose qui soit à la hauteur du défi.
Alors ça, on va en parler. Mais avant, je vais lire à Pierre Sankowski la phrase qui le concerne. Les individus nés après 1968 se divisent en deux catégories. Dépression et ressentiment d'un côté, ignorance et conformisme de l'autre.
Ah, moi, je suis plutôt première catégorie.
Voilà, il est plutôt ignorance et ressentiment.
Dépression, c'est très important, la dépression. C'est une maladie très contemporaine.
Alors,
la manière co-dépressive, hein, les états d'excitation, etc., et puis la rechute, la
enfin, dépression. Le côté maniaco-dépressif, je crois pas, n'est pas réservé aux gens nés après 1968.
Et d'une façon...
On en voit à la télé qui sont nés avant, qui ont pas l'air bien du tout.
Loana, par exemple.
C'est déjà très vieux.
C'est déjà très vieux, il a raison, il sait qui est Loana.
C'est très vieux, tout ça. Non, il faut voir qu'il y a une agitation qui est du côté de la phase maniaque, qui est suivie presque... Alors là, on ne vous la montre pas, mais d'une phase dépressive. Alors, ouais. Moi, je vois aussi beaucoup de gens, ma femme est psychanalyste, par conséquent, on en parle, je sais ce que c'est que la maniaco-dépressive, qui me paraît tout à fait intéressante aujourd'hui, y compris chez tous les zombies politiques qui s'agitent en boucle et qui sont profondément déprimés. On peut les prendre un par un, je vous montrerai la phase maniaque et la phase dépressive.
Ouais, mais ça serait, un jour on le fera, ça serait intéressant.